Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre chronique consacrée donc aux histoires d'Enfront en général et pour le moment aux documents qui nous permettent de raconter cette histoire de d'Enfront, les principaux documents bien sûr. Alors, dernière fois, nous en étions restés aux documents médiévaux et notamment les documents assez nombreux qui subsistent de la période de la guerre de Cent Ans, du temps où les Anglais occupaient le château. Nous allons descendre dans le temps et voir aujourd'hui les documents de l'époque, on va dire, Renaissance et classique, de l'époque moderne. Alors, il y a beaucoup de documents dont je ne parlerai pas parce que leur importance est relative. Cette chronique parle des grands documents, des documents principaux, ou des plus intéressants ou des plus spectaculaires. Donc, et en plus de ça, nous sommes, la place de Domfront est revenue au comte d'Alençon. Et les archives des ducs d'Alençon, pardon, maintenant ce sont des ducs, et les ducs d'Alençon, leurs archives sont quand même passablement dispersées ou perdues, enfin on n'a pas tout ce qu'on devrait avoir, et il y a beaucoup de choses qui ont disparu, et paradoxalement on en sait moins sur cette époque-là que sur la période précédente. Néanmoins, il subsiste un certain nombre de documents intéressants, ou alors des documents ont disparu, mais on sait qu'ils ont existé. Je commencerai aujourd'hui par les documents qui ont appartenu à François de Bois-Pitard. Alors Bois-Pitard, c'était un petit noble local, cadet de noblesse qui a été faire campagne dans les armées du roi, et qui est revenu dans le Domfrontais. Il doit être relativement jeune, il ne doit pas avoir 30 ans, qui est revenu dans les années 1750, 1755, ou quelque chose comme ça. Et il arrive à l'époque des guerres de religion, et peut-être à cause de son expérience militaire, les Domfrontais lui ont demandé d'être le défenseur de la ville, le défenseur catholique de la ville, contre les incursions protestantes. Alors, je soupçonne que le document Bois-Pitard, enfin qu'il y avait plusieurs documents qui ont appartenu à Bois-Pitard, il y a sa relation du siège de Domfront en 1574, qui est tirée de son journal, j'y reviendrai tout à l'heure, mais peut-être qu'il possédait aussi le rapport sur l'inspection, sur l'état des remparts, sur l'état de la ville et des remparts de 1562. Alors le rapport de 1562 sur l'état de Domfront, il est perdu et ça aurait été un document extrêmement intéressant parce que il faisait l'état de la ville de Domfront, dans quel étaient ses remparts, etc. Et bien de la ville et non pas du château. Ça aurait été, enfin peut-être du château aussi, mais surtout de la ville, alors qu'on manque furieusement de renseignements sur la ville. Donc ça aurait été extrêmement intéressant. La première mention dans les ouvrages revient à Odelin-Desnos. Odelin-Desnos avait écrit à la manuscrit, je ne pense pas que c'est jamais été publié, des mémoires historiques sur le passé, sur Domfront, son siège, le rôle des fiefs de la vicomté de Domfront, sur la baronnie de la Ferté-Macé, enfin un énorme ouvrage qui faisait 1450 pages. Et c'est là-dedans qu'il y a la première mention de ce rapport sur l'état de Domfront en 1562. Ensuite, tous les historiens de Domfront l'ont repris. Caillebotte, et puis tous ceux qu'on a vus précédemment, jusqu'à nos jours y compris, mais ça compte pas parce qu'ils se copient les uns les autres. Et c'est dans ce document qu'il est mention, qu'on dit que la ville de Domfront était environnée de 24 tours, dont la hauteur était depuis 95 pieds jusqu'à 70. On y entrait par 4 grandes portes couvertes par 4 bastions. Les murs de la ville avaient 5 pieds d'épaisseur, 20 de hauteur, avec un beau rempart. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on en a conservé, parce que ce n'est pas une édition du conte de 1562, c'est juste toute petite mention, une toute petite relation. Et c'est depuis qu'on dit que la ville a été entourée par 24 tours et 4 portes. Comme il y a 5 portes, on en déduit qu'il y a une des portes qui n'existait déjà plus à cette époque-là. Alors ce document, il n'a pas été retrouvé. Tout le monde le mentionne, tout le monde le cite, mais il n'a pas été retrouvé. Et il n'a pas été retrouvé, très vraisemblablement, parce qu'il a disparu, comme tous les documents originaux de François de Bois-Pitard. Parce que sinon, il y a également le fameux journal de Bois-Pitard. Le fameux journal de Bois-Pitard, certains auteurs le font commencer, je ne sais pas sur quelle base, dès son retour à Domfront en 1552 ou 1553. Mais on n'en a conservé qu'une courte partie, la partie qui parle des événements de 1574, de la prise de Domfront par les protestants, par l'arrivée de Montgomery, le fameux siège de Montgomery en mai 1574, et le siège et la prise donc de Montgomery au château. Donc ça couvre uniquement la période, on va dire, mars-mai 1574. Mais on a toujours, grâce à Odelin d'Hainaut, on sait que le journal de Boispitard couvrait une période plus large, et notamment commençait avant, puisqu'on a de très courtes mentions d'événements qui se sont passés en 1568, en 1570, et même au début de l'année 1574, donc avant les événements mentionnés dans ce qui nous reste. Ce journal de Boispitard, Odelin d'Hainaut, l'historien d'Alençonnais, l'a eu en main, c'est certain. Il le mentionne plusieurs fois dans ses mémoires historiques sur la ville d'Alençon et ses seigneurs. Il l'a emprunté aux descendants de Boispitard, c'était les châtelains de Sougez, le Ganelon, c'est quelque part au nord de la Sarthe. Et malheureusement pour nous, il l'a rendu. Qu'il leur avait emprunté en 1585, de ces documents-là. Il l'a rendu et, comme les seigneurs de Sougez, le Ganelon, les nobles, ont émigré à la Révolution, eh ben, les papiers qu'ils possédaient, ils sont partis sans leurs papiers, le château a été pillé et leurs archives ont été brûlées. Donc l'original du journal de Boispitard a disparu. Et je pense que le rapport de 1562, qui a été fait à l'époque de François de Boispitard et peut-être à sa demande, devait faire partie du même ensemble. Et dans ce cas-là, lui aussi a dû être brûlé à la Révolution et on ne le retrouvera jamais. Ce qui est bien dommage. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on connaît quand même le journal de Boispitard puisqu'il a disparu, mis à part les quelques mentions faites par Odelin d'Hainaut dans son ouvrage ? C'est qu'il a été recopié en 1738 ou 1739, si je me souviens bien, par quelqu'un qui était conseiller au présidial du Mans, enfin bon, un érudit alençonnais qui avait diverses charges d'avocat, enfin diverses charges à l'époque. Cette personne l'avait emprunté en 1738, il en a fait faire une copie manuscrite, et cette copie a été copiée, avec toutes les indications. Et il est absolument... On ne sait pas s'il a été copié intégralement, du début à la fin. Et dans ce cas-là, même la partie antérieure au siège de Domfront aurait été perdue à son tour. C'est-à-dire que la copie n'aurait pas été copiée intégralement. Ou s'il a copié uniquement le siège de Domfront. Enfin bref, cette copie a été faite donc en 1738. Le copiste, qui s'appelait M. Maulny, l'a restituée au seigneur de Sougez-le-Ganelon le 4 février 1739. On le sait parce qu'il le dit à la fin de sa copie, donc c'est certain. Et on n'a conservé que la copie de Maulny, ou même peut-être la copie de la copie de Maulny. Voilà. Et ça ne couvre que la période, donc, on va dire, de mars-mai 1574, la prise de Domfront par les protestants, par les frères Le Hérissé, l'arrivée de Montgomery, le siège de Montgomery par l'armée catholique du maréchal de Matignon, et la capture de Montgomery. Ça a été un événement considérable à l'époque. Hein. Le roi Charles IX, qui est mourant, et la reine Catherine de Médicis s'informe tous les jours, ou quasiment tous les jours, de la situation à Domfront. Enfin, c'était un grand, grand événement, là. Le siège et la prise de Montgomery à Domfront. Alors, pour cet aspect historique, bon, c'est extrêmement intéressant. Par contre, sur l'aspect topographique, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur la ville de Domfront. Boispitard dit seulement que les protestants, quand ils ont pris le château, se sont approchés de la porte, de la grande porte, c'est-à-dire de la porte d'Alençon. Ils ont fait une diversion. Pendant ce temps-là, une autre partie de la bande protestante passait par la porte neuve, c'est-à-dire en haut de la rue de Montgomery actuelle, dont les serrures de la porte avaient été sabotées et donc étaient cassées, et que lui s'est enfui d'urgence par le nord, hein, par quelque part du côté de la porte de la poterne, qu'il a sauté du rempart pour aller remonter, se mettre à l'abri du côté de la Brière. Voilà, d'un point de vue topographique, c'est tout ce qu'on sait. Donc c'est pas terrible, terrible. C'est plus intéressant pour l'histoire que pour savoir comment Domfront était. Ça ne valait pas certainement le fameux rapport de 1562 qui, si vous m'avez bien compris, à mon avis, a définitivement été disparu à l'époque de la Révolution. Alors nous descendons un petit peu dans le temps et puis nous allons voir un autre document essentiel qui est le procès-verbal d'inspection des remparts de la ville, toujours de la ville, hein, pas du château, du 8 mars, 1675. À cette date-là, de toute façon, ça ne peut plus être le château, puisque le château a été démoli sur ordre de Sully en 1610. L'ordre de Sully date de 1608, et ça a été, la démolition effective a eu lieu en 1610, ça on le sait maintenant. Donc le château, c'est plus qu'un tas de pierres. D'ailleurs, les pierres ont été vendues par contrat. On a acheté les bourgeois de Donfront, ou les gens de Donfront ou des environs ont acheté des pierres du château. Et les lieux ont été transformés en jardins potagers. Et ces jardins potagers, on dirait, jusqu'au 19e, voire jusqu'au 20e siècle, au château. Mais là, il s'agissait des remparts de la ville. Donc il y a eu toute une commission qui se crée pour apprécier l'état des fortifications, qui était d'ailleurs déjà fort mal en point. Alors il y a le vicomte, qui s'appelle Jacques Coupel à l'époque, qui est accompagné de l'avocat du roi, qui est un Gilbert, de deux échevins et du procureur syndic qui représente les habitants de la ville. Et ces gens-là se donnent rendez-vous devant le pont d'entrée au château, devant le fossé entre la ville et le château. Ils constatent que le pont est démoli, qu'il ne reste que des piles en maçonnerie, qu'on pourrait reconstruire le pont, ce serait pas trop difficile. Et d'ailleurs, on reconstruira un pont en 1738, qui n'est pas évidemment le pont actuel, qui date, lui, de la construction de la route en 1861. Et puis ensuite, ils se dirigent vers l'angle sud-ouest, et puis ils font les remparts sud, en essayant de prendre le chemin de ronde, ce qui montre qu'un chemin de ronde existait encore plus ou moins. Mais ils ont beaucoup de mal, parce que le chemin de ronde, des fois, il est coupé, des fois, il s'est effondré, des fois, il est occupé, il est barré par des clôtures, des barrières, il est coupé par des constructions, notamment les bourgeois de Donfront se sont installés des water privés accrochés aux remparts. Alors, quand ils ne peuvent pas passer, ils redescendent dans la rue, la grande rue, c'est-à-dire la rue du docteur Barabé actuellement, et puis ils remontent dès qu'ils peuvent, enfin voilà. Et ils vont comme ça jusqu'à la porte d'Alençon, avec un luxe de détails c'est à la fois extrêmement détaillé, extrêmement précis, et pourtant on a un mal fou à savoir où est-ce qu'ils sont exactement. Parce qu'ils disent, nous avons pris la venelle qui est entre la maison de monsieur machin et la maison de monsieur truc, ou entre, je sais pas moi, la parcelle, le jardin de monsieur bidule, enfin bon, mais comme on sait pas exactement où est la maison de monsieur truc, et qu'on sait pas exactement où était le jardin de monsieur bidule, on a une idée de l'endroit où ils sont à peu près, mais on ne sait pas exactement où ils sont. Et puis, il mentionne rarement des tours. Alors, la seule tour qu'il mentionne, c'est la tour Chicot, qui est manifestement la tour Lafaille ou Yvetot actuelle. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. C'est la seule de la face sud qui soit mentionnée. Et on est bien embêté. On n'a pas d'autres détails. Donc, ils vont jusqu'à la porte d'Alençon. Ensuite, ils sont bien obligés de descendre. Et puis, ils reviennent vers l'ouest en passant par le fossé Plisson, la ruelle sous les jardins. Ils constatent qu'il y a des ouvertures qui ont été pratiquées dans le mur, des poternes, des maisons qui sont appuyées, qui ont ouvert des fenêtres là-dedans. Enfin bon, bref, etc., etc. Bref, que le rempart est en très, très mauvais état. Et malheureusement pour nous, globalement, l'heure a avancé et ils se donnent rendez-vous pour plus tard pour faire la suite. La suite, c'est la façade orientale, ce qui serait au-dessus de l'autre fossé, l'actuelle rue des Barbacanes, et la face nord, et cette deuxième partie du rapport, de la visite, si jamais elle a eu lieu, écoutez, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, elle n'a pas été retrouvée, quoi. Et c'est bien dommage, parce que les remparts sur la face sud, les tours, on voit où elles sont, puisqu'elles sont encore plus ou moins toutes debout, alors que du côté est et surtout du côté nord, il reste plus grand-chose. Donc on aurait bien aimé avoir des renseignements sur les autres côtés des fortifications de Donfront. Et on les a pas, et on les aura pas. Alors, ce document a été édité par Georges Lasseur, pas tout à fait intégralement, il a coupé des passages. Honnêtement, ce qu'il a coupé, effectivement, d'intérêt secondaire. Et il en existe un original aux archives de l'Orne, dans la collection du Fonds de Frileuse. Et je me demande s'il n'y a pas eu, en fait, plusieurs exemplaires de ce même rapport remis à chacun des participants, et que Lasseur a peut-être copier un autre document que celui du fond de Frileuse, parce qu'il y a quand même des tas de petites différences qui montrent que, alors sur le fond, c'est bien exactement la même chose, dans le même ordre, mais il y a des petites différences de formulation assez nombreuses qui sembleraient prouver qu'il y a eu plusieurs documents. C'est un peu comme si on avait donné un exemplaire au vicomte, mais manuscrit évidemment, hein, pas de photocopie à l'époque, un exemplaire à l'avocat du roi, donc c'est celui du fond de Frileuse, un exemplaire aux échevins, un exemplaire au procureur syndic. Donc il y a dû y avoir plusieurs exemplaires de ce rapport d'inspection qui, je rappelle, date de 1660. Et qui est bien intéressant, malgré tout, pour connaître quoi ressemble, pour savoir à quoi ressemblait Domfront à la fin du XVIIe siècle. Bon, ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait encore des remparts, mais qui étaient sérieusement en très très mauvais état, qui étaient en voie de disparition. Mais ils étaient encore là. Alors, ce rapport d'inspection de 1675, il fait un petit peu pendant avec le célèbre registre des aveux, appelé également sommaire du noble et du roturier, qui a longtemps été possédé par, a été conservé longtemps à la médiathèque de Domfront, et qui est maintenant aux archives de l'Or. Alors, ce sont 8 grands volumes, hein, en papier, reliés en papier, avec une couverture recouverte de cuir, qui couvrent à peu près toute la vicomté de Domfront. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Le volume 1 concerne Domfront, et puis ensuite on a Passais, Saint-Frimbaud, enfin plusieurs paroisses, etc. Et il y en a 8 volumes. Est-ce qu'il y en avait encore d'autres après? Parce que toutes les paroisses n'y sont pas. Il en manque quelques-unes, donc il y a peut-être encore un volume qui a été perdu depuis. J'en suis pas très sûr, mais enfin, c'est une possibilité. Et ce registre des aveux, comme son nom l'indique, il regroupe les aveux des propriétaires ou des tenanciers de maisons ou de parcelles, aussi bien dans les paroisses rurales qu'en ville. Donc c'est toujours à peu près la même forme, c'est je reconnais tenir du roi notre sire, notre et souverain seigneur. Alors ensuite, c'est une maison, alors qui ensuite est décrite assez précisément, avec tant de pièces, etc., etc. Un étage, un escalier qui queue, avec des fenêtres, une couverture en tuiles, enfin voilà, c'est extrêmement précis. Situé entre, et là, c'est toujours situé relativement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un emplacement précis, ou très très rarement. Alors quand c'est à côté d'une tour, là oui, on arrive à savoir où c'est. Sinon, c'est comme tout à l'heure, c'est une maison située entre la maison de Monsieur Truc et la maison de Monsieur Machin d'un bout, et la rue et le jardin de Monsieur Truc d'un autre côté. Parce qu'on décrit toujours ce qui borde la parcelle en question. Hein, ça s'appelle les côtés et les bouts, ou les tenants et les aboutissants. Et la longueur, la largeur, quoi, grosso modo. Donc là aussi, c'est extrêmement précis, mais c'est extrêmement relatif, et c'est tout un travail considérable, et personne n'a abouti jusqu'ici totalement pour essayer de localiser tout ce qui est mentionné. Alors, il y a la ville de Domfront, et il y a également les paroisses rurales, hein, qui sont à l'origine des communes. Et là, c'est les paysans qui reconnaissent tenir telle pièce de terre. Alors, même chose, qui tient entre le champ de Monsieur Machin et d'un côté, et la prairie de Monsieur Truc de l'autre, et le chemin qui mène de A d'un bout, et derrière une autre parcelle. Enfin, voilà, c'est toujours localisé relativement. Alors, c'est un monument, ce document. C'est énorme. Je ne sais pas si quelqu'un... je sais qu'il y a des gens qui ont essayé d'en faire quelque chose, de l'exploiter à fond. Et surtout, c'est très très compliqué parce que ce qu'on a conservé est en fait une copie dont je n'ai pas encore déterminé la date exacte, si tant est qu'on puisse la savoir. Mais enfin, c'est obligatoirement du XVIIIe siècle, puisque le document le plus tardif que j'ai repéré pour le moment... Mais j'ai pas tout lu. C'est 1734, donc fatalement, les copies, de toute façon, l'écriture nous le montre, hein, c'est fatalement du XVIIIe siècle. Ça a peut-être été recopié plus tard, hein, peut-être en 1770 ou 1774, dans ces années-là, je ne sais pas encore exactement. Mais ça, on a copié, en fait, des aveux qui sont plus anciens, qui sont dans leur très très grande majorité du XVIIe siècle. Hein, qui date des années 1600. Alors là, il y a beaucoup de 1664, mais il y a des 1680, des 1669, des 1600... Enfin, très XVIIe siècle. Et des fois, des copies plus anciennes d'aveux encore antérieurs du XVIe siècle. Alors, il y a deux parties dedans. Il y a le noble, qui commence le tome 1. Alors là, c'est les fiefs. Hein, les fiefs nobles ou les sergenteries nobles, et puis qui couvrent un demi-volume à peu près, ou le tiers du premier volume, et puis après c'est les roturiers, les paroisses, les tenues roturières, qu'elles soient des boutiques ou des maisons en ville ou des jardins en ville, ou que ce soit dans les paroisses rurales. Le problème, c'est que, je répète, il faut savoir quand est-ce que ça a été vraiment écrit. La structure est extrêmement compliquée à suivre, ça parle de lignes, donc de lignes généalogiques, mais les tenanciers qui déclarent qu'ils tiennent tel ou tel bien au XVIIe siècle ne sont pas forcément, et même pas toujours, et même rarement, ils ont pas forcément le même nom que le titulaire de la ligne. Donc on présuppose que le titulaire de la ligne, c'est le premier qui a rendu hommage. Alors ensuite, il y a une divergence entre M. Chartus, qui pense que c'est le premier tout court, qui a rendu hommage pour ses terres, ou sa maison, ou son jardin, là pour le coup au Moyen-Âge. Moi, j'ai tendance à penser que, surtout dans les paroisses où on peut faire une comparaison, où on a des documents médiévaux, et déjà, enfin du XVe siècle, et déjà au XVe siècle, c'est déjà plus forcément les mêmes noms, j'ai tendance à penser que ce sont les premiers qui ont rendu aveu quand on a fait le premier récapitulatif, un premier registre que moi je verrai bien après la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire que la guerre de Cent Ans, ça a entraîné beaucoup de... Il y a eu des morts entre la peste, les événements militaires, etc. Il y a des gens qui se sont partis, qui se sont enfuis, il y a eu des familles qui se sont éteintes. Bon, enfin bref, je pense que le pouvoir châtelain, quel qu'il soit, alors c'était peut-être les ducs d'Alençon, ou le roi de France quand il a repris la Châtellenie en main et qu'il l'a confisqué au duc d'Alençon, il y a eu des allers-retours dans la deuxième moitié du XVe siècle. Bon, enfin bref, on a voulu mettre les choses au clair et qu'on a fait un premier registre d'aveu à cette époque-là. Et ensuite, ça a été la base, et c'est de là que dateraient les premières lignes. Et ensuite, nous, on a des aveux plus tardifs du XVIIe siècle et même parfois du XVIIIe. Alors, ces documents ne sont plus à Domfront, c'est bien malheureux. D'abord, il y en a trois qui ont disparu assez vite dans les années 70, parce que des historiens du Domfrontais dont nous avons déjà parlé, qui s'appelait Jean Grandin, en avait emprunté trois tomes sur les huit, et il est mort, et les trois tomes devaient être chez lui, et ses héritiers, ne sachant pas trop quoi en faire, au lieu de les rendre à la bibliothèque de Domfront, ils les ont rendus aux archives de l'Orne. Donc à partir de la fin des années 70, il y avait trois tomes à Alençon et cinq tomes à Domfront, et là au début des années 2000, tout récemment, la fin des années 2010, j'ai plus la date exacte en tête, les archives de l'Orne ont récupéré les cinq derniers tomes. Donc maintenant, pour les consulter, soit il faut aller à Alençon, soit il faut demander une numérisation, puisqu'ils ont été entièrement numérisés. Donc voilà pour les grands documents de l'époque médiévale et moderne. Bon, ensuite, on change d'époque, on passe à l'époque révolutionnaire et puis aux époques contemporaines. Alors, je n'ai pas parlé de tout, il y a plein d'autres documents, mais enfin, nous nous sommes concentrés sur les principaux documents les plus importants, les plus intéressants. Voilà pour la série de chroniques sur les documents. Ensuite, nous entamerons des chroniques sur autre chose, sur par exemple la mise en valeur du château, les phases de mise en valeur du château, enfin, etc., etc. Les histoires domfrontaises au pluriel ne sont pas terminées.